Déjà cette rune. Ça y est, t'avais pris des bonnes résolutions. C'était ton 31 décembre à toi, puis il y a eu ton 1er janvier, puis t'y croyais, puis t'avais juré. T'avais juré que tu mentirais plus, et puis que tu te pèserais plus, et puis que tu t'aimerais, t'avais juré. T'avais juré que ça serait différent. C'était les espoirs, c'était l'éveil. L'éveil de guerre, l'éveil d'armes, c'était les feux de bois. C'était le nouvel an, c'était je te jure, je te promets les serments. C'était les vœux, c'était les moins vieux, c'était on va s'en tirer, on sera heureux. Et puis, t'as le mardi 3 janvier. C'est déjà 2 jours après, tout a changé. La rentrée, le petit cartable, le petit bureau, le petit ticket de métro, et puis t'es un peu gros, et puis la vie, elle t'a repris comme ça, comme on tend la main, une main qui ne se tend pas, elle, alors on est seul, avec ses 5 doigts dans le vide, et puis quoi? Puis la vie, elle a pas toujours tort, alors tu recommenceras, tu feras les vœux du 4, et ceux du 5, et ceux du 6, et en attendant, ça glissera sur toi, ça glissera, et puis tu seras heureux quand même, parce que t'as pas besoin de vœux, t'as besoin de l'instant présent. L'instant présent, c'est se réveiller, aller attaquer sa journée à la calache, au coutelas, avec les dents. Aller chercher la croissance avec les dents, les croissants avec le S en plus. Le S, celui qui siffle. Ça siffle dans nos têtes, je vous embrasse très fort. On est le 3 janvier, c'est le 3 janvier, c'est Thierry Paret.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouet, pouet, la hurlette. Tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Thierry Paret, bonjour. Ceux qui vous connaissent et qui vous écoutent depuis tout à l'heure ne se rendent pas compte du changement qui s'opère en vous lorsque vous devenez vraiment le journaliste.
Ah bah, c'est à tel point que je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment.
C'était la précédente, vous avez votre t-shirt Soy Cuba, Che Guevara Forever. Là, c'est le t-shirt chose. François Fillon revient.
Exactement.
Voilà. Et ben, on vous écoute avec grand plaisir.
Prestance. Du coup, ça lui va.
Ouais, fais mon gros bisou.
Radio Nova.
Les chauffeurs de VTC repassent à l'action, ils remettent le couvert si vous préférez. Après plusieurs jours de mobilisation au mois de décembre, ils prévoient de se mobiliser de nouveau ce mardi en se rassemblant devant le siège parisien de l'entreprise Uber. Les chauffeurs dénoncent, je vous le rappelle, leurs conditions de travail et ils tentent d'obtenir un infléchissement de la société californienne, notamment sur la commission prélevée sur chaque course. Un nourrisson âgé de 10 jours est décédé, ça s'est passé le 22 décembre à l'hôpital Cochin à Paris, immédiatement après l'administration d'une dose d'Uvestérol D, c'est une vitamine D. Le décès n'avait jusqu'ici pas été rendu public. Le directeur général de la santé Benoît Valette avait été informé de ce décès le jour même, tout comme l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais n'aurait demandé de plus amples informations à l'hôpital Cochin que le 27 décembre. Le tribunal correctionnel de Paris dira demain, mercredi donc, s'il reporte ou non le procès de Théodorin Obiang, on en parlait déjà hier, le fils du président de Guinée équatoriale, dans l'affaire des biens mal acquis. Je vous rappelle qu'il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine
c'est
considérable.
Pas si simple. C'est à pas base si de... simple. C'est pas, c'est un petit peu, c'est un tout petit
à base de voitures de luxe.
C'est un petit peu...
Bon, ok, je fais des raccourcis. C'est
oui,
vrai.
Oui,
30 c'est costumes vrai. Dans la même journée, c'est pas si grave.
Voilà, plusieurs hôtels privés, des voitures de luxe, c'est vrai que c'est possible. C'est possible.
Voilà,
c'est
possible.
Donc, avec l'aide d'une filiale de la Société Générale.
Ah, voilà. Ça fait plaisir.
L'État islamique a finalement revendiqué l'attentat d'Istanbul hier dans une discothèque la nuit du jour de l'an. L'assaillant, lui, est toujours en fuite. Première étape de l'ouverture au privé du marché des carburants mexicains. Les prix de l'essence ont augmenté de plus de 20% le 1er janvier, donc dimanche dernier. Résultat, les protestations se multiplient. Des manifestations ont eu lieu dans les rues de Mexico, la capitale, ainsi que dans plusieurs autres grandes villes du pays. Pays producteur de pétrole, le Mexique importe majoritairement le carburant de l'étranger parce qu'il ne bénéficie pas d'assez de raffineries sur son
si
territoire.
Grave, c'est pas si grave, faut voir ça chez soi, faut le voir chez soi.
C'est vrai. Pas... Et c'est pas si simple non plus.
Non, c'est pas si simple.
Une mutinerie dans une prison de Manaus, dans le nord du Brésil, a fait, tenez-vous bien, 56 morts. Et là, on va plus entendre personne. Dans la nuit de dimanche à lundi, selon le secrétaire à l'administration pénitentiaire de l'État d'Amazonie, ces violences sont liées à une rivalité entre détenus appartenant à deux bandes. Ce bain de sang, donc, provoqué par la guerre entre factions criminelles, serait, on veut bien le croire, le plus grave, le plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie. C'était une figure assumée du syndicalisme réformiste. François Chérec, qui avait dirigé la CFDT de 2002 à 2012, a donc succombé à une leucémie à l'âge de 60 ans hier, en première ligne lors du conflit sur les retraites. Il avait soutenu la réforme de François Fillon. Les jeunes générations connaissent son nom parce qu'il en avait fait une marque de lunettes mondialement connue, mais Jean Vuarnet était surtout un skieur émérite, hein, champion olympique de descente en 1960. Il est décédé, il avait 83 ans. Il est à l'origine de la posture dite de l'œuf, adoptée par tous les skieurs en quête de vitesse aujourd'hui. Donc on sait qui a inventé l'œuf, on cherche encore celui qui a inventé
la poule.
Voilà.
Ok, l'automobile retrouve sa vitesse de croisière en France. Le marché français est proche de ses records, il est en évolution rapide. Quant à Las Vegas, vous avez le rendez-vous des politiques et des entrepreneurs. Voilà, la météo, elle est simple. À Paris, de moins 2 à 4, Nice, 8, 14, Biarritz, 2, 7, moins 3, 1 à Strasbourg. Voilà, l'actualité chiante, il faut bien que quelqu'un la coltine.
7h, 9h, plus près de toi.
Voilà, c'est très étrange.
Magnifique attaque de phrase.
C'est toujours une façon de gagner du temps. C'est vrai que ce morceau s'est arrêté d'une façon que je ne trouve pas très aimable.
Non.
Moi, quand je m'arrête, j'annonce, je commence à faire des signes de la main. Je vais bientôt m'arrêter, prenez le relais. Je trouve que la façon qu'a eu ce morceau de s'arrêter net n'est pas.
Un peu sec.
C'est peut-être à cause de l'émotion, un peu comme le jingle est parti trop vite lorsque Catherine Laborde a annoncé que c'était sa dernière chronique météo sur TF1. Ben après, le jingle est parti trop vite pour dissimuler l'émotion.
Ah, vous pensez qu'il y a une volonté aujourd'hui à la télévision de dissimuler l'émotion? Je ne suis pas convaincu.
Ben oui, parce qu'elle était au bord des larmes. Alors on s'est dit, en cette nouvelle année, tout de même, est-ce que ce n'est pas plutôt le sourire qui devrait prévaloir?
Et vous avez écouté François Rollin, cette belle phrase. Elle a dit, vous m'oublierez, moi pas.
Ouais.
Un peu comme Daniel Gilbert avait dit la même chose.
Oui.
Je me rappelle quand
Giscard avait dit ça aussi.
Oui.
Et Pierre Gagnon, qu'on a oublié d'ailleurs.
Oui.
On ne sait plus du tout qui c'était.
Mais on ne l'oubliera pas plus que ça. Peut-être bien d'ailleurs qu'elle nous oubliera avant qu'on l'oublie. Alors, vous notez ça. Surveiller le compteur.
Ok, c'est parti. Le grand débat de 7h11. Atmen Jacquelin, François Pignard, bonjour.
Bonjour.
Oublier ou être oublié, c'est aujourd'hui le choix auquel nous sommes confrontés. Préférez-vous oublier ou être oublié? Nous parlerons ensuite de aimer ou être aimé. Atmen, vous avez beaucoup oublié, vous avez été oublié.
J'ai été longtemps oublié au fond de la classe, longtemps oublié dans les caves, longtemps oublié chez moi.
Et aujourd'hui, c'est un enfant en colère, un enfant qui a été
un enfant malheureux, un enfant qui se bat. J'ai des petits points, j'ai envie de dire merde.
J'existe. Bien entendu.
Voilà, tout simplement.
François Pignard, une petite colère. Bon, très différente. Le débat monte un petit peu.
Oui, les sont pipés dans ce débat.
Je sais ce qu'il va dire. Seconde.
Évidemment, parce que monsieur sait déjà ce que je vais dire et moi, je serais supposé ne pas savoir ce que je vais
bien
dire.
Sûr.
Donc évidemment, si c'est pour avoir ce genre de débat, nous perdons notre temps. Quoi. Nous sommes en train de parler de rien. Nous ne savons même pas de quoi nous sommes en train de parler. Voilà,
vous oubliez le dernier débat.
Mais je n'oublie rien.
Si on commence comme ça, je trouve que c'est dommage d'oublier ce qu'on voulait dire.
Déjà.
Quitte à ne pas n'avoir rien à dire, je crois. Quitte à n'avoir rien à dire, autant l'oublier et à partir de là, repartir sur des bases plus saines.
Voilà.
Je crois.
Tout simplement.
Dans un premier temps.
Oui. En fonction de l'actualité.
Bien sûr. Ou pas. C'est à l'actualité au sens large. C'est à l'actualité d'il y a un an ou de l'année prochaine.
Vite oublié, tout simplement.
Être actuel, c'est une sorte d'être vivant déjà, peut-être.
Oui.
Être dans le cheminement.
Non, être actuel, c'est une façon d'être actuel.
Mais sans modernité excessive, il vous est devenu indifférent.
Parce que
d'être
Edouard,
moderne.
Parce que vous voulez toujours un petit peu prolonger les axes paradigmatiques. Non,
être
actuel,
vous n'avez pas le droit de dire ça.
C'est une façon d'être actuel.
Et les Français savent exactement ce qui se cache derrière ce genre de déclaration très agressive.
Dites-le ce qui se cache.
Mais il n'a pas peur de lui.
Alors quoi, à quel animal? Un loup? Un renard?
Vous savez très bien. Dans quel petit terrier vous cachez. Et je vois la queue du renard qui sort.
Ah oui,
je suis désolé que ça se passe comme ça. On vous laisse vous réveiller doucement. Je suis désolé sur l'atmosphère générale d'agressivité qu'il y a ce matin. On va tout calmer. Ah, on met Pierre Barou maintenant. Pierre Barou, qui est mort il y a quelques jours, personnage magnifique que j'ai eu la chance de croiser.
Flamboyant,
qui a été le premier à ramener des sons du Brésil, à voyager au Japon, à vivre de rencontres et de balades. Et puis il y avait cette très belle chanson, l'une de ses dernières.
Ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés.
pour qui tout va tout à l'envers. Jamais le cœur abîmé, résigné,
si quelques paumés de l'univers.
Au cabaret, dès la dernière chance, se retrouve autour d'un dernier verre. Viens prendre un air d'insouciance et danse.
Aïe, aïe, aïe. Tu savais. Eh ouais. Allez, viens, lève-toi debout, allez, viens. Viens. Allez, vas-y.
Chance. Dernier verre. Viens prendre un verre d'insouciance et danse.
Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts
et ceux qui vivent les yeux fermés.
Ceux pour qui tout va tout à l'envers.
Jamais le cœur abîmé, résigné,
si quelques paumés de l'univers.
Au cabaret de la dernière chance,
se retrouve autour d'un dernier verre. Viens prendre un air d'insouciance
et danse.
Aïe, 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 aïe.
Salut Pierre Barou.
Voici quand dans le studio, Étienne Labrou, le réalisateur de L'Élan. Viens là, Étienne. Viens là, comment on dit dans cette série. Viens là, mon Étienne. Viens. Venez, allez, mes petits chéris. Mes petits quoi?
Mes petits babas.
Mais non, mes petits. Non, c'est pas ça.
Oui, bien sûr.
Alors, Étienne Labrou, L'Élan, un film très étrange, très étonnant, qu'il faut aller voir, je crois, Étienne Labrou, qui vient de sortir dans un réseau tout à fait poétique de ça. Parce que je crois que, comme
il y a
quelques années, Benoît Forgeard avait sorti un très beau film et avait dit ce film a décidé de sortir dans la plus grande discrétion afin de ne pas éclabousser par sa magnificence le reste de la production cinématographique française. Je crois que L'Élan aussi sort dans un cadre très restreint de salles, Étienne Labrou.
Oui, et on a choisi de sortir dans une salle à Paris.
Voilà, parce que si vous trouvez que trop c'est vulgaire,
voilà.
À partir de deux, on rentre vraiment dans le grand marché, on rentre dans la hollywoodisation des choses.
Oui.
Quel est ce film, cher Étienne, L'Élan ?
Alors L'Élan, c'est un film fantastique. Tu veux quoi, l'histoire un peu?
Oui, comment tu aimes en parler, comment tu as envie qu'on...
Bah c'est un film tout à fait hors norme. C'est un film que je pense qu'il y en a un qui s'est fait et il y en aura pas d'autres ni avant ni après. C'est...
Sauf si évidemment les chiffres sont tels qu'à un moment les gens vont.
On a déjà sur Paris on est à 66 entrées.
Oui, c'est-à-dire 66 personnes différentes.
66 personnes totalement différentes, oui. Les unes des autres.
Très
qui
bien.
Sont venues voir ce film.
C'est joli d'imaginer quel est le destin de ces personnes, pourquoi ils sont venus là, parce qu'on n'en a pas énormément entendu parler jusqu'ici de L'Élan.
Non, voilà, tout à fait, ouais. Et donc c'est à la Catone, c'est un petit cinéma 20 rue Cujas.
Oui, je le note. Roland, vous notez aussi.
Je vois que tu l'as noté.
Cujas, oui.
Ouais, voilà, Cujas.
Parce que vous êtes à Sancier, oui, ou à la Sorbonne
Louis le Grand.
Louis le Grand.
Voilà.
C'est pas très loin.
Pas très loin.
Tu vas me l'avoir, cette trépa. Tu vas me l'avoir, cette
trépa. Oui, oui, oui. Hein? Il travaille.
Tu bosses.
Je prends mon Élan.
L'Élan, quelle est l'histoire que...
Alors, l'histoire, c'est une créature étrange d'Élan qui est une tête d'Élan en peluche posée sur un corps recouvert d'un grand manteau.
C'est quelque chose qui arrive de plus en plus aujourd'hui, ça ?
Oui. C'est un espèce de cri d'alarme qu'on essaye de lancer. Mais
ce personnage arrive où alors ?
Il arrive dans un petit village situé en Vendée, curieusement.
Oui. Ça n'a rien à voir avec l'idée que c'était là que vous pouviez tourner parce que vous aviez une maison à l'œil là-bas.
Non, rien à voir.
Ça n'a
rien à voir
avec c'est ça. Lié, on a un décor à l'œil et tout à coup,
on est très très loin de ça. Non, pas du tout. Donc il arrive là Et alors tout est basé sur des faits réels, comme c'est expliqué dès le générique. Hein.
Donc un personnage débarque, un personnage qui a une tête d'élan et un corps d'élan, mais pas du même élan.
Voilà, c'est ça, sur deux pieds, voilà, et qui ne parle pas, qui se déplace assez lentement et qui va être accueilli très rapidement par une jeune fille. Télépathe.
Qui est joué par François Morel ?
Non, pas encore.
Non,
c'est Delia Espinadieff.
D'accord.
Delia, charmante comédienne, très bien. Et donc, il est accueilli dans cette famille, et là, il va rencontrer les différents protagonistes du film, dont François Morel, qui est un garagiste.
Il y a le garagiste, un petit peu. J'ai regardé un petit peu, moi.
C'est vrai, c'est bien.
Non, après, il a eu un problème de téléchargement parce que vous aviez eu la gentillesse de nous donner un DVD pour qu'on le regarde. On a eu un problème technique.
C'est vrai.
Ouais. Mais ce film avait des choses incroyables. Il m'a rappelé Donnie Darko. Vous voyez ce film avec le lapin qui vivait dans ce village où c'est l'ambiance du chien de Daft Punk un peu qui se balade et les gens n'arrivent pas. La fille communique avec lui au début.
C'est la seule, oui.
Elle avec ce flou comme ça et tout, et tout le monde la regarde. Enfin, on dirait qu'il y a que elle qui le voit.
Oui, un petit peu. Il y a un côté comme ça. C'est un film. Donc, cet élan arrive dans ce village, les gens réagissent, te posent des tas de questions, mais malheureusement pas les bonnes. Du coup, l'histoire se complique, s'envenime, jusqu'à un dénouement final dont je ne peux rien dire.
Mais Étienne Labrou, est-ce que vous-même, vous avez eu la sensation adolescent peut-être d'être différent, d'avoir un physique que les gens ne comprenaient pas, puis ce sont les femmes qui vous ont sauvé ?
Alors, la sensation d'être différent, oui, je l'ai eue. Est-ce que les femmes m'ont sauvé ? Oui, aussi, en fait.
Tout de suite, le grand débat, sauvé par les femmes. Sauvé par les femmes, mettez-nous la musique, grand débat, Manu, mon vieux. 7h21, François Rollin, Ahmed Khalif. La même musique du débat de tout à l'heure. C'est pas possible, dès que Armelem est en vacances. Sauvé par les femmes, autour de cette table, quatre hommes qui ont eu une enfance difficile, une adolescence incertaine, un âge adulte qui n'annonçait rien de bon. Et puis une femme est arrivée dans votre vie, François Rollin.
Non, je note en premier lieu que nous avons encore un débat sur les femmes dans lequel il n'y a pas de femmes. Voilà, autour de cette table, oui. Il n'y en a pas. Non, Atmen, vous n'êtes pas une femme. Non, Étienne, vous ne l'êtes pas non plus.
Non, mais
Édouard non plus. Non, mais permettez-moi, ce sont des faits, ce sont des choses que l'on constate. L'auditeur l'entend.
Mais derrière chaque homme, il y a chercher la femme, si vous voulez. Oui. Derrière votre équilibre aujourd'hui, l'idée, c'est que vous êtes imprégné de féminité. C'est ce qui fait votre charme.
Oui, mais enfin, pour en débattre, j'aurais préféré avoir en face de moi une petite brune bien,
je vais vous dire la vérité. Vous croyez que je préférerais pas être ce matin avec des femmes intelligentes, belles, douces, et je suis avec trois cons.
Bah oui, voilà, t'es sauvé par une femme. Tu peux pas dire le contraire.
Je m'en vais. On va écouter des fonds pour la suite. Envoyer un disque.
Les femmes nous ont sauvés. La mienne m'a sauvé.
Allons, on écoute la chanson de l'élan ou pas ?
Ah ouais. Allez, très bien.
Attendez, bougez pas. Elle est de qui ?
En plus, l'élan, il faut dire que c'est quoi ? C'est une parabole sur l'immigré, un petit peu quand même.
Un petit peu de choses qui arrivent dans ce village. Sur la différence. La manière dont on accueille la différence.
Ça ressemble beaucoup quand même au film que personne n'a vu, Hibou, de Ramzy.
Oui, mais celui-là, vous salissez tout, vous dites n'importe quoi.
C'est grave, qui était bien, attention. Mais c'est grave.
Moi, je trouvais que Hibou était un film chouette. Je l'ai vu et c'était pas
amusant.
Il est là-dessus, comme ça.
C'est dommage que ça se passe comme ça. Il faut aller à la Catone pour le voir.
À Catone.
À quelle heure ?
Alors, il y a des projections à 14h et puis là, il y en a d'autres à 20h.
Mais même si on n'habite pas Paris, on peut tout à fait débarquer à la Catone.
Mais il y a aussi, si on n'habite pas Paris, on peut le voir à Lyon, à Grenoble ou à Dijon.
Ah, il y a plusieurs salles. Mais on peut aussi quitter son bureau dès maintenant et aller à la Catone.
Un film dans lequel il y a François Morel, Olivier Broche et Arsène Mosca n'est pas forcément un mauvais film. Et,
voilà, exactement.
Je crois que c'est très étonnant ce film et qu'il faut le voir si on veut être un petit peu chamboulé.
Voilà.
Pour pouvoir le raconter et dire, moi je l'ai vu et le garder comme un.
Arrête.
C'est comme un pince.
Arrête,
baisse les yeux.
J'aime beaucoup la façon dont vous le vendez. Vendez, car il est tourné en Vendée.
C'est terrible. Quand je vois toute ma vie défiler, comment suis-je arrivé là, à cette table-là, avec cette conversation-là, ce jour-là. La chanson de l'élan. Merci, cher Étienne Labrou. Tous au cinéma. La chanson de l'élan, le film d'Étienne Labrou, qu'il faut aller voir. Renseignez-vous, il se joue près de vous. Nous sommes avec Jacques Souvent. Jacques Souvent, cet homme qui sillonne la rue pour nous tenir au courant des humeurs. Voilà. Salut Jacques.
Salut. Alors là, je sienne pas la rue, je suis en train de remonter un tram qui est en train d'avancer.
Attendez.
Dans l'autre sens.
Il y a beaucoup d'informations. Déjà, je trouve que Jack, c'est quand même autre chose que salut Jacques, qui serait mou. Et là, vraiment, au moins, il y a une accroche. Donc, vous êtes dans Paris, parce que hier, vous étiez à Morlaix, je le rappelle.
Oui, je dois dire que l'activité, ça change ici. Là, je suis dans un tram.
Parce que oui.
Oui, je cherche un regard, une étincelle. Oui. Alors, il y a des gens qui sont sur leur téléphone portable, tout ça. Donc, ils sont en train de se connecter.
Alors, certains portables Samsung brûlent, je crois, les galaxies. Il peut y avoir une étincelle.
Ah, il écrit un message, un mail. Là, monsieur, monsieur, bonjour. Vous êtes en train de lire un livre.
C'est quoi ça?
On me repousse. Pas de rencontre, pas d'étincelle.
Mais quel est ce livre? Quel est ce livre?
Pierre Perrier.
Pierre Perret, avec un I.
Voilà. Là, ici. Vous êtes connecté?
J'imagine que c'était trop. Non, ici,
c'est très studieux. C'est très studieux.
Il faut dire qu'un homme avec un micro dans un tram à 7h28 du matin, c'est pas forcément la chose
la
plus évidente.
Là, j'ai une femme qui se maquille, quelqu'un qui prépare sa clope. Bonjour.
Bonjour.
Ah, quelqu'un de sympa. Vous préparez votre clope pour sortir à la prochaine station.
C'est ça.
C'est une roulée?
C'est une roule. Comment?
C'est pas la prochaine station.
Ah ben, suivez-la. Et combien on économise sur 10 cigarettes, une roulée par rapport à une cigarette de marque?
Je vais poser la question.
Merci.
Combien on économise de cigarettes avec des roulées?
De fric.
Beaucoup. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul.
Pas fait le calcul. Alors, le truc dans un tramway, c'est qu'je suis en train de parler avec cette jeune femme, et tout le monde nous regarde, évidemment.
Oui, et avec des regards bienveillants, il y a de la tendresse?
Ça dérange pas. Il y a un peu de tendresse, il y a un peu d'étonnement. Il y a un petit peu de rire, il y a un petit peu carrément un gars qui s'en fout complètement, il est sur son portable. Mais vous allez où alors?
J'ai mes parcelles, je travaille, je fais une école de commerce.
À quel endroit?
PSD, Paris School of Business, et je suis là à rue Nationale.
PSD, PSD, PSD.
Ah non,
PSD,
je
rigole
pas trop, mais bon.
PSD, PSD, PSD.
PSB.
J'ai bien aimé quand cette jeune femme a dit « ça ne me dérange pas qu'on la regarde, je voudrais qu'on approfondisse cette thématique ».
Nous arrivons, attendez, écoutez.
C'était très joli, une femme, ça ne me dérange pas qu'on me regarde.
On arrive à Avenue de France.
Ça m'a donné envie de la regarder.
Porte d'Ivry.
Porte d'Ivry. Oui. Restez un peu avec cette jeune femme pendant qu'on envoie la publicité. Je crois que ça peut le mélange des deux.
On va rester ensemble un petit bout.
À tout de suite. À tout de suite.
À tout à l'heure.
Un petit peu.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
En effet, merci ma grande. Il est 7h31 et 44 secondes à la demande générale, le rappel des titres de Thierry Paré.
Radio Nova.
Après plusieurs jours de mobilisation au mois de décembre, les chauffeurs de VTC remettent le couvert. Ils vont se mobiliser aujourd'hui, ce matin même. Ils vont se rassembler devant le siège parisien de l'entreprise Uber. C'est dans le 19e arrondissement. Les chauffeurs dénoncent leurs conditions de travail et tentent d'obtenir un infléchissement de la société californienne, notamment sur la commission prélevée sur chaque course. Les Français ont aimé la primaire de la droite. Vont-ils aimer celle de la gauche? Un peu plus d'une semaine du premier débat de la primaire de la gauche. Manuel Valls et Vincent Payon vont présenter leur programme aujourd'hui.
C'est pas si simple.
Je vous vois venir tous les deux. Premier débat télévisé en tout cas le 12 janvier. Deux suivront les 15 et 19 et puis aura lieu le premier tour le 22 janvier. Un nourrisson âgé de 10 jours est mort le 22 décembre à l'hôpital Cochin à Paris, immédiatement après l'administration d'une dose d'Uvestérol D. Il s'agit de vitamine D. Le décès n'avait pas été rendu public et le directeur général de la santé, lui, avait été informé de ce décès le jour même, mais il aurait demandé des plus amples informations à l'hôpital Cochin que le 27 décembre seulement. Le tribunal correctionnel de Paris dira demain si il reporte ou non le procès de Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, dans l'affaire des biens mal acquis. Je vous rappelle qu'il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable à base de voitures de luxe, hôtels privés, avec l'aide d'une filiale de la Société Générale. L'État islamique a finalement revendiqué...
C'est quand vous faites des descriptions des biens, vous avez... il a des pompes en croco, il a vraiment des cravates
il a
rouges.
Il a une voiture à 2 millions
il a une
de
voiture,
dollars.
Il a une perle à sa cravate.
Il a acheté la Cadillac de Kennedy. C'est vrai?
C'est-à-dire quand il a fallu saisir ses voitures, il a fallu amener un gros camion, il y avait plusieurs voitures quand même. L'État islamique a finalement revendiqué l'attentat d'Istanbul dans une discothèque la nuit du jour de l'an. L'assaillant, lui, est toujours en fuite. Donald Trump, qui s'en prend à la Chine, il estime qu'elle tire grandement profit de ses liens économiques avec les États-Unis, mais qu'elle ne contribue pas à contrôler une Corée du Nord lancée dans la course à l'arme nucléaire.
Ouais.
C'était une figure.
Pardon, j'arrête, mais c'est pas si simple.
Pas si simple. Ouais, c'est vrai.
C'était une figure assumée du syndicalisme réformiste. François Chérec, rappelons-le, est décédé. Il avait dirigé la CFDT entre 2002-2012. Il a succombé à une leucémie. Il avait 60 ans. Et puis les jeunes générations connaissent son nom parce qu'il en avait fait une marque de lunettes mondialement connue. Mais Jean Vuarnet est surtout un skieur émérite, champion olympique de descente en 1960. Il est décédé. Il avait 83 ans. Il est à l'origine de la posture dite de l'œuf adoptée par les skieurs en quête de vitesse aujourd'hui. Enfin, le chousse, quoi.
Il avait lancé cette formule. Ce ne sont pas mes narines, ce sont mes lunettes.
Non, ça c'est Michel Leeb.
Ah, pardon. C'est pas si simple.
Sept heures, neuf heures. Plus près de toi.
Alors, c'est un petit peu ce matin, on fait une émission un peu associative, on arrête des disques, il y a des blancs, c'est assez joli, c'est poétique. Ça rappelle les débuts, nous sommes des pionniers. Thomas Baumgartner, vous êtes venu me renforcer pour parler d'un sujet qui vous touche beaucoup, puisque je rappelle que vous êtes franco-russe.
Oui, absolument pas du tout, mais si vous
voulez.
Oui,
mais
entre 7h36 et 7h50 en général, oui.
Vous savez que le mensonge est un moment de la vérité, simplement. Alors, vous êtes très inquiet en plus, très inquiet parce qu'il paraîtrait que Vladimir Poutine est là, est en train de tirer les ficelles du grand tout, aurait fait élire Trump, et est-ce qu'on s'inquiète aussi pour nous, pour nos élections? Nous avons la chance d'avoir Nicolas Hénin au téléphone.
En ligne, absolument, oui. Nicolas Hénin qui a publié au mois de mai « La France russe, enquête sur les réseaux Poutine » chez Fayard. Et les questions qui se posent, en fait, c'est le magazine Forbes, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, a dit que le président russe, donc Vladimir Poutine, était l'homme le plus puissant de la planète. Il y a quelques jours, encore plus récemment, Vladimir Poutine, dans ses vœux, a salué toute une série de chefs d'État en place, dont François Hollande et aussi François Fillon. Voilà, par hasard. Bon, il y a toute une série d'événements, évidemment, qui poussent à poser cette question-là. Ça fait 17 ans à peu près que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie ou Premier ministre en Russie. Est-ce qu'il a jamais été aussi influent? Ça pourrait être la première question qu'on peut vous poser, Nicolas Hénin, ce matin. Est-ce qu'il a jamais été plus influent qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine? Ah, voilà, on va peut-être essayer de le rappeler un petit peu plus tard, parce qu'effectivement, non seulement ça, mais une autre des informations récentes, c'est qu'il y a quelques jours, 35 agents russes qui avaient été expulsés du territoire américain en représailles à des cyberattaques, des attaques en ligne, qui pourraient avoir été russes et surtout qui auraient pu favoriser l'élection de Donald Trump. Il y avait eu la publication de milliers de mails, de milliers d'emails de responsables démocrates qui avaient brouillé, dit-on, le message d'Hillary Clinton, donc la candidate démocrate. Et dans cette affaire, donc, en réponse, on attendait une réponse diplomatique de Vladimir Poutine, et lui, il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. Il a refusé, a-t-il dit, de tomber au niveau d'une diplomatie irresponsable. Et il y a eu une réponse de Donald Trump, qui n'est pas encore président des États-Unis. Ce sera le 20 janvier, on aura l'occasion d'en reparler.
Alors, je crois, pendant que moi, je faisais un collier de nouilles pour la fête des mères et pour Noël, un cendrier en pâte à modeler, on a finalement Nicolas Hénin au téléphone.
Oui, alors Nicolas Hénin, bonjour. Alors, a-t-il jamais été aussi influent, Vladimir Poutine?
Ben écoutez, il est très influent. Et ce qui est rigolo, c'est que le débat sur est-il fort, est-il bon, est-il puissant, est-il influent, traverse à la fois ces aficionados, traverse les deux clans, celui de ses aficionados comme celui de ses détracteurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des détracteurs qui vont dire « Regardez comme il est puissant, sous-entendu dangereux », d'autres qui vont dire « Regardez le camp d'en face qui va dire « Regardez comme il est puissant, sous-entendu efficace, bon ». Et à l'inverse, vous allez avoir parmi ces détracteurs des gens qui vont vous dire « Regardez comme il est faible, en fait, comme quoi sa puissance n'est qu'une posture, mais en fait, il n'est que le petit patron d'un pays très moyen pour montrer sa faiblesse relative. » Et à l'inverse, parmi ces aficionados, parmi ces défenseurs, voire ces fans, vous allez avoir des gens qui vont dire « Mais non, arrêtez de croire les couvertures des grands médias anglo-saxons qui vous surjouent la puissance de ce personnage. Il est surtout très fin et arrêtez de vous focaliser là-dessus. »
Nicolas Hénin, c'est très intéressant que vous parlez d'un pays moyen. Vous voulez dire qu'en fait, la personnalité de quelqu'un arrive à faire oublier le fait que son pays ne soit pas si important sur la scène économique?
Évidemment. Alors, la Russie est contradictoire. La Russie, si on regarde la géographie, eh bien, elle est impressionnante parce qu'elle s'étend. La Russie, elle commence juste derrière la Pologne, donc notre quasi-voisin, et elle va pratiquement jusqu'aux frontières de la Corée. Donc, c'est d'un point de vue géographique, quand on regarde une carte, on est impressionné par la masse. Cela dit, en termes de population, en termes de richesse et en termes même de puissance militaire, c'est un pays très moyen. En termes de dépenses militaires, la France va dépenser cette année davantage pour sa défense nationale que la Russie. En termes de PNB, donc de richesse de l'État, on est au niveau de l'Espagne. Donc oui, on est bien sûr face à un géant géographique, diplomatique, puisque c'est quand même un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, et on sait combien ça compte, mais en termes d'économie, par exemple, c'est un pays relativement moyen.
Bah, il ne faut plus avoir peur, alors.
J'ai plus peur du
parce
tout.
Parce que Atmen Khelif avait peur, c'est plus la peine de...
Bah non,
on peut sortir de chez nous normalement.
Parce que la Sibérie, en fait, il n'y a personne qui habite, ça fait des régions complètement vides, c'est ça?
Et puis en fait, la dépense militaire, par exemple, il faut voir comment elle est répartie. La France va ou d'autres pays européens vont avoir une armée très investie sur la technologie. La Russie a une armée extrêmement rustique, mais reste malgré tout, et c'est là qu'on peut malgré tout, malgré cette puissance relativement moyenne, avoir peur, c'est le premier pays au monde par le nombre de têtes nucléaires.
Et on ajoute, pour revenir à cette question de l'influence, qui est corrélaire aussi avec cette question militaire, est-ce qu'on peut imaginer qu'en ce moment, Vladimir Poutine s'en amuse, cette influence, cette supposée influence, ces rumeurs sur ces influences, quand il salue François Fillon, qui est candidat à l'élection présidentielle, qui n'est pas chef d'État, dans ses voeux aux différents chefs d'État du monde, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une forme d'ironie de sa part ?
Non seulement il s'en amuse, mais en plus il en joue. Mmh. Il a été Vladimir Poutine a été formé à l'école du KGB. Mmh. C'est fondamentalement un agent. C'est quelqu'un qui a été formé à l'école du renseignement et qui dit d'ailleurs lui-même, il n'y a pas d'ancien KGBiste. Sous-entendu, KGBiste un jour, KGBiste toujours. Mmh. Donc, et résultat, ça lui permet quoi ? Ça lui permet d'utiliser là où d'autres politiciens vont être davantage dans une vont davantage contrôler ce qu'ils font. Lui n'a aucune hésitation à utiliser l'ensemble du spectre des relations possibles. Ça veut dire qu'il va il va avoir des dossiers sur tout le monde, et il va utiliser ces dossiers aussi bien pour flatter que pour faire pression. Flatter, par exemple, c'est cet incident quand même, cette anecdote surprenante à propos de François Fillon. Le jour où François Fillon perd sa mère, eh bien, Vladimir Poutine lui envoie une bouteille d'un très bon vin, millésime 1931, l'année de naissance de sa mère. Tout ça, c'était dans ses dossiers. Mmh. Donc, c'est la façon dont il va, d'une part, marquer des attentions, marquer s'attirer l'amitié de quelqu'un, mais à l'inverse, il a aussi potentiellement des crasses sur tout le monde, de façon à pouvoir faire pression sur les gens en leur disant si jamais tu ne fais pas ce que je veux, je peux sortir telle chose, je peux révéler ou faire révéler. C'est le principe WikiLeaks d'ailleurs qu'on a vu avec les mails qui avaient été piratés du Parti Républicain. Je peux révéler ou faire révéler des éléments compromettants à ton égard. C'est aussi le principe de toutes les sextapes. On va avoir les services de renseignement russes sont connus pour décrédibiliser des opposants en les poussant dans les bras de je ne sais pas quelle prostituée pour une orgie sexuelle avec des caméras dans les coins, et comme par hasard les photos ou les vidéos vont sortir.
Mais alors ça, ce sont les armes russes et de Vladimir Poutine en particulier, donc là du côté de Poutine, mais du côté en France en particulier, Nicolas Hénin, est-ce qu'on peut parler d'une influence réelle ? C'est-à-dire que la question qui se pose, qu'on voit la main russe derrière l'élection de Trump éventuellement, voire derrière le Brexit et d'autres situations mondiales, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une influence russe sur le déroulement de la pré-campagne présidentielle aujourd'hui en France?
Bah écoutez, de fait, force est presque de se constater que les Russes n'ont pratiquement rien à faire actuellement. Les candidats qui sont en tête sont les favoris du moment, lui sont à peu près tous favorables. Donc lui, il a déjà fait son travail en amont. Il a sans doute contribué. Après, on peut évidemment discuter de l'efficacité de ses entreprises, de ses tentatives et de son influence. Mais il a sans doute contribué à faire émerger des candidats qui lui sont favorables. Et là, pour le moment, il a joué tous les chevaux qui mènent la course. Donc pour le moment, il n'a guère qu'à attendre.
Merci beaucoup, Nicolas Hénin. On rappelle le titre de votre livre.
La France russe s'est paru au mois de mai, avec quelques mois d'avance sur ces questions-là, chez Fayard.
Merci beaucoup Thomas Baumgartner, merci beaucoup à tout le monde.
Là on avait Jacqueline Taïeb.
Très bien. Et Prune, tu as bien aimé cette chanson ou pas ?
Ouais.
Ce qu'on entendait là, tu l'as bien aimé ? Ouais, pas plus que ça quoi. Bon, on va t'écouter.
Un enfant.
Un enfant. Un poème.
Prune, tu chantes pas, toi, si ?
Non.
Jamais ?
Non.
À l'école, tu chantes pas non plus ?
Non.
Mais tu vas pas me dire non tout le temps, Prune, sinon je vais pleurer. Je vais être très triste. C'est quoi le poème que tu as appris ?
Je serai Père Noël.
D'accord. On l'écoute et on en parle juste après. Je serai Père Noël par Prune.
Je serai Père Noël. Quand je serai très vieux, je serai Père Noël. Je vivrai dans les cieux sous un toit d'arc-en-ciel. Mes ateliers jouets seront dans les nuages. De là-haut, je verrai quels sont les enfants sages. Mais je me souviendrai de quand j'étais petit, des caprices que j'ai faits, des mensonges que j'ai dit. Et j'aurai dans ma hotte, pour les petits coquins, des jouets qui clignotent et des ours câlins. Mais je me souviendrai de quand j'étais petit.
Superbe.
Magnifique. Magnifique.
Qui a écrit ça ?
Corinne Albo.
Corinne Albo ?
Oui.
Et dis donc, toi aussi, tu aimerais être Père Noël quand tu seras grande ?
Non.
Tu as reçu des cadeaux pour Noël ?
Oui.
Quoi ?
Des trucs pour faire des parfums.
Oui.
Après, une Barbie. Après...
Tu l'as parfumée, ta Barbie, ou pas ?
Non.
Non ?
Après, j'ai eu un lapin avec une maison avec.
Ah bon ?
Et...
Un lapin en lapin ou un lapin en autre chose ? Un vrai lapin ?
Non, un faux lapin avec une maison avec. Et...
La maison du lapin ?
Oui.
Un terrier ?
Non.
Ah non, une maison avec des chaises pour lapin, lit pour lapin, baignoire de lapin. Ouais.
Et des rollers.
Ah bah dis donc, t'as eu beaucoup de cadeaux, t'as eu de la chance. Il y a quelque chose que tu aurais voulu en plus ou pas ?
Non, c'est bon.
Très bien. Bah écoute, on t'embrasse très fort parce que je sais que tu dois partir à l'école dès maintenant. Pendant ce temps-là, Tman Kelly, vous allez peut-être lui chercher des vrais lapins ?
Oui,
sûrement. Fait toujours plaisir aux familles.
Mais j'ai adoré son poème, il l'a très bien dit.
Je crois que c'est un poème d'elle-même, je vous expliquerai. Merci Prune, gros bisous.
Au revoir.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
Ça va être la rentrée dans quelques instants, la rentrée des classes. Partout, des cartables se remplissent, partout, des dents se brossent, partout on court, partout on cherche à attraper le tram, le bus, le métro, la voiture de papa, de maman, d'essayer d'avancer sur les routes pour être à l'heure le jour de sa rentrée. Nous sommes avec trois jeunes femmes qui rentrent aujourd'hui. Elles ont fait ce fameux stage d'observation de troisième juste avant les vacances, donc elles sont parties très longtemps. Nous sommes d'abord avec qui ? Allô ?
Lucie.
Lucie.
Oui,
Lucie, tu vas rentrer au collège Claude Chappe dans le 19e arrondissement. La rentrée de janvier par rapport à la rentrée de septembre, elle fout autant la trouille ou pas ?
Non, on a l'habitude.
On a l'habitude, ça y est, quoi, le pli est pris. Tu as fait un stage de troisième.
Oui.
Est-ce que ça change ta vision de l'école tout à coup ?
Pas forcément, parce que travailler, c'est pas plus simple qu'aller à l'école. Mais par contre, ce rapport de stage, ça change pas ma vision de l'école.
Donc là, t'arrives avec ton rapport de stage sous le bras ?
Oui.
Ah oui, d'accord. Et alors, c'est quoi la rentrée de janvier ? Tu vas, on compare nos vacances. Toi, t'as eu de la chance. Toi, t'es partie. Toi, non. Toi, t'as eu des cadeaux. Toi, non.
Non, je suis pas partie, mais j'ai pu fêter Noël avec toute ma famille, ce qui est exceptionnel.
Bon, tu vas. Qui tu as envie ? Dis-moi le prénom de quelqu'un que tu as envie de retrouver ce matin.
Mathilde, ma meilleure amie.
Ok, commence à avancer vers ton lycée. Tout de suite, reste en ligne avec nous.
Je suis déjà devant.
Attention, ne bouge pas, essaye de commencer à dire bonjour à tes amis. On te reprend tout de suite. Maintenant, on est avec Luna. Luna est au collège Lavoisier à Lambersart dans le Nord. Qu'a fait Luna ? Que va faire Luna ? Luna, est-ce que tu es devant la grille aussi ?
Non, je suis dans la voiture.
Luna, c'est pas toi qui conduis parce que je pense que tu as 14-15 ans ou est-ce que tu as fauché une bagnole pour cette rentrée de janvier ?
Non, c'est ma maman qui va me conduire à l'école.
Maman te conduit à l'école, est-ce que c'est un moment silencieux entre vous ? Est-ce que c'est un moment de confidence, Luna ?
Oui.
Fais une confidence devant nous à ta mère.
Pardon ?
Fais-lui une confidence, là, dans la voiture.
Ok. Je suis en direction Radio Nova.
Ok, j'attends tout de suite les réactions. Reste en ligne avec nous, Luna. Nous partons tout de suite maintenant dans le 6e arrondissement de Paris. Bulle va rentrer aussi. Comment est la rentrée de Bulle ? Bulle, est-ce que tu es devant les grilles du lycée Sainte-Geneviève, là, maintenant ?
Non.
Non.
Tu es où, Bulle ?
Là, je vais sortir du métro.
Ok, Bulle, tu nous... reste en ligne dès que tu es devant les grilles. Tu nous reprends, on retourne tout de suite avec Lucie dans le 19e arrondissement. Lucie, est-ce que des amis sont arrivés devant ton lycée?
Oui, deux, trois.
Alors vas-y, c'est qui? Qui est autour de toi?
J'ai vu Tadjola, mais elle est rentrée parce que ça va bientôt sonner.
Oui.
Et puis il y a eu Enzo que j'ai vu passer, et là il y a Adrien qui vient de rentrer.
Ok, donc tout le monde rentre, tu es la dernière, est-ce que tu es sûre que tu veux y aller? C'est maintenant dans 15 secondes, tu es sûre?
J'ai pas le choix.
Ok Lucie, c'est parti, bonne journée à toi.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée. Ça y est, Lucie est rentrée. Plus que deux à faire rentrer. Aidez-nous à les faire rentrer. Elles ne veulent pas y aller. Elles ont fait leur stage de troisième. Luna, tu vas être en retard. Est-ce que c'est 8 heures ta rentrée à l'Ambersart dans le Nord?
Oui.
8 heures. Donc c'est maintenant dans... C'est passé depuis 5 secondes. Luna, est-ce que tu viens de rentrer ta rentrée de janvier? Est-ce que tu viens de la rater?
Non, je viens de rentrer dans l'établissement.
Ah, c'est magnifique. Tu rentres, vas-y, traverse la cour. Essaie de te faire supprimer ton téléphone. Va vers un pion ou quelque chose.
Non.
Parle à quelqu'un.
Bonjour.
Pas de réponse. C'est ça la rentrée de janvier. Dès septembre, les gens se tournent les uns vers les autres. Après la Toussaint, il y a encore des réponses. Et dès la rentrée de janvier, là, tout le monde s'en fout. Bonne rentrée, Luna.
Merci.
La dernière à rentrer, c'est Bulle. Bulle. Bulle a raccroché. Elle est donc rentrée. Lucie est rentrée. Luna est rentrée. Ça y est, on a réussi, Mémène.
Toutes les brebis sont rentrées, c'est magnifique.
C'est super. Tout le monde est rentré à l'école.
Voilà, tout le monde est rentré.
Demain, on fera pareil. Et puis, il y a la Thierry Paré qui est rentrée aussi. Il est 8h01.
Il fait très chaud en ce moment au Chili, hein, et il y a beaucoup de vent. C'est ce qui explique qu'un gigantesque incendie ait détruit une centaine d'habitations à Valparaiso ces dernières heures. Un bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés. La ville portuaire est particulièrement vulnérable aux feux de forêt durant l'été austral, donc c'est en ce moment. Sa topographie est particulière aussi puisqu'elle s'étale sur une quarantaine de collines. Les quartiers sont desservis par un labyrinthe de ruelles, d'interminables escaliers qui rendent d'autant plus difficile le travail des secours. Une mutinerie dans une prison de Manaus dans le nord du Brésil a fait 56 morts. Ces violences sont liées à la rivalité entre détenus appartenant à deux bandes. Il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie. Donald Trump, qui s'en prend à la Chine, il estime qu'elle tire grandement profit de ses liens économiques avec les États-Unis, mais qu'elle ne contribue pas à contrôler une Corée du Nord lancée dans la course à l'arme nucléaire. Et puisqu'on est aux États-Unis, on y reste un instant. Des milliers de passagers se sont retrouvés coincés dans les aéroports américains hier à cause d'une panne nationale du système informatique des douanes qui a duré plusieurs heures. L'État islamique a finalement revendiqué l'attentat d'Istanbul dans une discothèque la nuit du jour de l'an. Parallèlement à cette annonce, l'enquête semble progresser. 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. On ne sait pas si l'assaillant fait partie de ces personnes. Le bilan, toujours provisoire, de ce drame fait toujours état de 39 morts pour 65 blessés. Théodorin Obiang sera fixé demain. Le tribunal correctionnel de Paris dira mercredi s'il reporte ou non le procès du fils du président de Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. Il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable à base de voitures de luxe, hôtels particuliers, avec l'aide d'une filiale de la Société Générale. Et outre la Guinée,
bien mal acquis ne profite jamais, je voulais le...
Tout à fait, voilà. Amen. Outre la Guinée équatoriale, deux autres procédures pour bien mal acquis ont également été lancées. D'une part, alors, contre les enfants de Denis Sassou Nguesso au Congo, et d'autre part contre le clan Bongo, c'est au Gabon. Après plusieurs jours de mobilisation en décembre, les chauffeurs de VTC repartent à l'assaut d'Uber. Ils prévoient de se rassembler ce matin devant le siège parisien de l'entreprise californienne. D'ailleurs, ils doivent y être en ce moment. C'est dans le 19e arrondissement. Les chauffeurs dénoncent leurs conditions de travail. Un nourrisson âgé de 10 jours est mort le 22 décembre à l'hôpital Cochin à Paris, immédiatement après l'administration d'une dose du Vestérol D, c'est de la vitamine D. Le décès avait jusqu'ici, il n'avait pas été rendu public. Le directeur général de la santé avait été informé de ce décès le jour même, tout comme l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais il n'aurait demandé de plus amples informations à l'hôpital Cochin que le 27 décembre seulement. Les Français ont aimé la primaire de la droite. Vont-ils aimer celle de la gauche? À un peu plus d'une semaine du premier débat de cette primaire de la gauche, Manuel Valls et Vincent Payon vont présenter leur programme aujourd'hui, donc une campagne éclair pour les deux hommes. Premier débat télévisé le 12 janvier, deux suivront les 15 et 19, et puis aura lieu le premier débat, le premier tour tout simplement, hein, dans les urnes, ce sera le 22 janvier. Première étape de l'ouverture au privé du marché des carburants mexicains. Les prix de l'essence ont augmenté de plus de 20% le 1er janvier. Résultat, beaucoup de manifestations au Mexique en ce moment. Le Mexique qui importe majoritairement le carburant de l'étranger, faute de raffinerie suffisante. Je dis cela parce que le Mexique est aussi un pays producteur de pétrole. C'était une figure assumée du syndicalisme réformiste. François Chérec est donc décédé. Il avait dirigé la CFDT de 2002 à 2012. Il avait 60 ans seulement, il a succombé à une leucémie. Et puis autre décès, celui de Jean Vuarnet à l'âge de 83 ans. Oui, celui-là même, hein, qui est à l'origine des lunettes qui portent son nom. Mais Jean Vuarnet était surtout un skieur émérite, champion olympique de descente en 1960. C'est lui qui a inventé le schuss.
Nova.
Nova.
7h-9h, plus près de toi.
On a enchaîné ce qu'on appelle en termes de radio deux morceaux musicaux. Hein. Vous avez remarqué, je sais, vous étiez chez vous, vous dites tiens, il y a eu deux musiques de suite différentes, de chansons même, n'ayons pas peur des mots. C'est tout simplement parce qu'Atmen Khelif qui est là, vous avez eu quoi?
Un malaise vagal.
Vous avez eu un malaise vagal, c'est-à-dire vous avez tourné de l'œil.
Tourné de l'œil. Je pense que c'est lié à la bouffe du réveillon.
C'est ça.
Peu.
Vous avez remonté
d'escargots farcis.
C'est ça. C'est dans un monde où beaucoup de gens aimeraient manger, vous avez trop mangé.
Trop mangé, beaucoup trop.
Vous êtes dégoûté physiquement d'avoir trop mangé et moralement. Aussi.
J'ai revu tous ces plats qui défilaient.
Vous avez vu la société de consommation qui s'est répandue dans votre monde comme ça.
Puis un saumon, trop de saumon. Trop d'abats.
Mais pourtant vous avez été choqué, Atmen, pendant les vacances parce que vous êtes un fan de Carrie Fisher,
je sais que
la mort de Carrie Fisher qui nous a affecté vous a particulièrement touché.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu que la mort de Carrie Fisher, il y a eu sa crise cardiaque le 23 et la crise cardiaque de sa mère le lendemain.
Alors, Debbie Reynolds, qui était aussi une grande actrice américaine.
Une actrice qui jouait dans Chantons sous la pluie et La conquête de l'Ouest. Et pour revenir sur la carrière de Carrie Fisher, qui est mort à 60 ans, je crois qu'elle attendait vraiment ce rôle de la princesse Leila qui revenait un peu dans sa carrière. Ça repartait après des années drogue qu'elle a eues dans les années 80 avec John Belushi et tous les gens du Château Marmont. Là, elle revenait un petit peu. Et ma petite, alors elle avait écrit un livre sur les relations avec sa mère de Debbie Reynolds, qui était une mère abusive, qui était une mère qui l'a castrée un petit peu, qui l'envoyait en riab souvent et tout, qui lui expliquait qu'Hollywood c'était très difficile, qu'elle avait beaucoup souffert à la MGM, à vouloir danser, tout ça. Et quand Carrie Fisher revient l'année dernière, en process, là, il est un peu vieillissante, un peu botoxé, cette année ils lui ont fait un sale coup, et je pense que c'est ça un peu qu'il a, pour moi, ma théorie qu'il a un petit peu achevé. Ils l'ont fait revenir cette année dans le spin-off, la Rogue One qui est sorti, en infographie virtuelle, totale, jouant avec des comédiens vivants. C'est-à-dire qu'elle a un vrai rôle. C'est-à-dire que c'est comme si on vous prenait vous, il y a 25 ans, et que vous jouiez.
Ça m'arrive tout le temps, moi.
Et voilà, et en fait, elle était spectatrice de sa propre image qui jouait à sa place. C'est un peu dire, c'est comme le portrait de Dorian Gray, vous voyez, vous voyez quelqu'un qui joue à votre place, vous vieillissez dans un coin et votre image est figée à vie. Et c'est terrible. Et ça a continué comme ça. Je pense que voilà, Disney et Apple vont faire beaucoup de mal au cinéma s'ils continuent comme ça, parce qu'ils vont utiliser des comédiens qui seront morts il y a 50 ans et peut-être mélanger Brando jeune, se battant avec Jean Lefebvre.
Ça a commencé avec la publicité. Je crois qu'il y a une idée de faire ça dans le cinéma. Dans des cinémas 3D, maintenant, il y a l'idée de reprendre
Fred Astaire qui dansait pour des couches. Ouais, c'est vrai, il y a très longtemps qui était passé. Et peut-être qu'un jour, il y aura un film avec Garbo et Aldo Maccione. Ça, c'est une envie très alléchante que je voudrais avoir. Voilà, je crois que...
Merci, Atmen.
Voilà, la Fontaine de Jouvence n'est pas morte.
Merci,
voilà.
merci pour ce qu'on appelle un billet. Radio
un
François,
petit billet.
Un billet. Parce que vous avez fait de la radio, 80 ans de radio, François Rollin.
Oui.
C'est votre...
80 ans de radio, 80 ans de billets, 80 ans de bonheur, 80 ans de rencontres.
Bah, vous en avez donné du bonheur, puis vous en avez reçu aussi. C'est ça que j'aime dans ce livre. C'est que vous parlez vraiment
j'en
du partage.
J'en ai beaucoup reçu, c'est-à-dire que... bon, on ne le dit pas assez, mais l'auditeur... dans sa virtualité, il est aussi réel à l'intérieur de cette virtualité.
Il est dans votre cœur. Voilà. Et François Rollin, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes d'abord, vous étiez au début de la radio, à l'époque où c'était quoi, deux pots de yaourt reliés par une ficelle.
C'est la formule de Pierre Tchernia, oui, c'est ce qu'il utilisait. Il disait, c'est ce qu'il avait dit à sa bague. Il avait dit, nous sommes deux pots de yaourt reliés par une ficelle.
Chez Dumayet, oui. Enfin voilà, les jeunes se rappellent tout de suite. Mais là maintenant, on peut être en même temps en studio, François, et dans la rue avec Jacques Souvent. Jack, tout à l'heure, on vous a laissé dans le tram, dans le 13e arrondissement. Vous aviez peu de contacts, sauf une jeune femme qui partait, qui vous avait dit qu'elle aimait bien qu'on la regarde. Où en êtes-vous, Jack?
J'ai dû la laisser parce qu'elle était elle allait assez partielle à Porte d'Ivry. Je suis descendu Porte de Choisy. Et maintenant, je suis dans le quartier qu'on dit chinois. En fait,
alors...
toute la ville est sous-titrée ici. C'est-à-dire qu'il y a tous les mots sont en chinois et en français. Et je suis avec trois... étudiantes qui font la rentrée aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Donc c'est toute la ville est sous-titrée ici.
Oui.
En chinois.
Oui.
C'est du mandarin, c'est du cantonais, c'est quoi?
Mandarin.
Mandarin. Et vous parlez les deux langues?
Oui.
Par exemple, comment on dit école en chinois?
Xiexia.
Comment?
Xiexia.
Ah, ça donne plus envie qu'en France. Oui, ça donne plus envie d'aller en... Séchat, c'est plus agréable. Je vais à Séchat, c'est plus agréable.
Et alors ici, il y a des annonces partout. On peut prendre des cours de mandarin, de sitar. Il y a des cours de taekwondo, kung-fu.
Oui. Il y en a un à côté de l'église, là-bas. C'est un cours, c'est une rencontre franco-chinoise, je crois.
Et vous êtes né en France, alors?
Oui.
Et vos parents sont nés où?
En Chine.
Et ils sont arrivés quand?
Je sais pas.
Il faut leur demander, quand même.
Comment ça?
À peu près il y a 10 ans, enfin, ou plus, je ne sais pas. Plus, parce que je suis née en France. Je pense il y a 13 ans.
Il y a 13 ans, et toi tu es née en France. Ils te parlent de leur enfance en Chine, eux ?
Des fois.
Qu'est-ce qui les a amenés ici ? Qu'est-ce qui se passait dans leur village en Chine ou dans leur ville ?
Je ne sais pas.
Ah, mais il faut renouer ce dialogue, hein, parent-enfant, qui est un problème. Tu te sens bien à Paris ? Tu es heureuse ?
Oui.
J'aime beaucoup, parce que tout le monde m'a dit non ce matin, quand je parlais, et toi tu dis beaucoup oui, et je te remercie beaucoup pour ça. Jack, racontez-nous un peu les jeunes femmes à qui vous êtes, elles ont des cartables, on parle à l'école.
On avance ensemble, c'est un collège-lycée, alors elles ont des petits bonnets sur la tête, elles sont super sympas, et... on croise pas mal d'enfants ici qui sont en rentrée scolaire. D'ailleurs, peut-être une professeure, bonjour.
Non, pas du tout.
Je n'ai pas trop.
Pas du tout.
Vous voulez pourquoi pas non. Pourquoi pas
Merci.
Mais pourquoi pas, madame?
Vous voyez mon professeur.
Mais pourquoi pas?
Non, complètement.
Oh, elle a une façon délicate de me toucher le coude.
Mais vous avez un coude très soyeux, les auditeurs s'en rendent compte.
C'est vraiment sympa. Au revoir les filles.
Salut les filles. Jacques, justement, il paraît que vous connaissez bien la ville de Valparaiso. On a appris qu'il y avait des grands incendies.
Oui, j'ai entendu ça.
Thierry Paré nous en a parlé. Il y a des forêts autour de Valparaiso ?
Il y a des forêts, pas trop. Il y en a en haut de Valparaiso. Plus on monte dans les collines de Valparaiso, plus on est dans les quartiers pauvres et moins c'est défriché encore. Donc il y a encore pas mal d'eucalyptus, des choses qui prennent feu assez rapidement. Mais les pompiers sont extrêmement... rompu aux incendies là-bas et aux petites ruelles, aux petits escaliers, comme disait Thierry Paré. C'est assez étonnant de voir ça. Ils ont des gros camions de pompiers américains. Ils ont des trucs assez énormes. Ils sont très appréciés là-bas. Ouais.
Vous vouliez être pompier quand vous étiez enfant ?
Ah bah oui, bien sûr.
Bien sûr.
C'est les échelles, les grues, tout ça.
Continuez à enquêter dans le Chinatown parisien. On va tout de suite parler du dialogue parents-enfants qui a été rompu dans plusieurs familles grâce au grand débat de 8h16. Parents-enfants, dialogue impossible, parents-enfants, renouer avec le contact, avec le dialogue, des mots pour guérir les mots. François Rollin, vous êtes auteur de ce livre, des mots pour guérir les mots. Atmen Kelly, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de l'enfance et de l'âge adulte, et de l'âge adolescent, et du très grand âge, et des bambins. Vous êtes un spécialiste un peu multicarte. François Rollin, y a-t-il aujourd'hui un risque de briser ce contact ? Est-ce que l'enfant est isolé dans la ville ?
Ben, vous notez déjà, Monsieur Baird, que dans ce débat, il y a un grand absent, c'est l'enfant.
Tout à l'heure, on parlait bien des femmes sans les femmes.
Voilà. C'est-à-dire que je me demande si ça n'est pas un petit peu le nouveau look, le nouvel axe de Radio Nova, qui serait, je fais un débat sur quelque chose sans ce quelque chose.
Tout à l'heure, on fera un débat sur les banlieues avec des bourgeois, uniquement. Oui. Voilà. C'est assez courant.
Ou un débat sur le Pithiviers. Sans Pithiviers.
Sans la ville de Pithiviers. Non, ça me fait moins. Attends, attends. Rollin, j'ai moins aimé ça.
Oui.
Rollin, je te le dis amicalement.
Ah, ça blesse quelqu'un.
Ah, je trouve que c'est
désagréable. Alors je suis désolé.
Parce que je trouve que quand on stigmatise une ville sur son nom et qu'on dit Pithiviers comme si ça faisait marais, alors que tout à coup New York, ça vous fait pas rire, ça.
Non.
Tokyo non plus.
Mais c'était pas tellement la ville, c'était plutôt la pâtisserie, le Pithiviers. Bon, évidemment, mais je suis d'accord.
Ce que je voulais dire, c'est que l'enfant peut être là. Moi, j'ai été souvent enfant. Il y a un enfant en nous. Et là, on lance des choses, vous dites qu'il n'y a pas de femme, pas d'enfant. Il n'y aura rien, alors vous cassez le débat. Vous êtes un peu comme ça quand même.
Oh, ça m'amuse de vous entendre me pinailler sur ce point, parce que
vous ne finissez pas vos mots.
Il y a eu trop de meux, à partir de trois meux, de quatre meux.
Comme de la mesure.
Non, alors écoutez, on va écouter quelque chose.
Trop de Pithiviers.
Vous demandez Marie Missé dans quelques instants.
C'est pas vrai.
Oui, elle va arriver. On va écouter quelque chose.
7h, 9h, plus près de toi.
Juste avant le morceau, François, vous avez retenu la pub Lidl. Est-ce qu'on se la rappelle 4 minutes après ?
Oh oui, bien sûr. Ben, ce chiffre clé, 1,27€, la boîte de petits Suisses. Comment l'oublier, hein ? Difficile. Hein ?
Et vous avez vu qu'il avait fait intervenir un homme de nationalité suisse pour parler du petit Suisse. Je pense que c'était une plaisanterie.
Non, je ne pense pas. Je pense que le petit Suisse vient en effet de Suisse et simplement il est petit. C'est pour ça qu'il coûte 1,27€.
Oui, mais le monsieur qui parlait avait l'accent suisse. Je pense que c'était une volonté d'humour de Lidl.
Non, je ne pense pas.
Et si.
Ça
va
là. Si. De... Ah, d'accord. Ah, au sens de, d'accord, au sens de, il est petit, le prix de, €1,27.
Oui. Et le type dans l'accent, la naïveté.
On ressent grâce à le grand retour de Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour Marie. Bonjour Edouard, bonjour tout le monde. On parle beaucoup d'arbres dans la presse ce matin. Oui, on parle des baobabs citernes de Madagascar, ça c'est dans la Croix. Ils sont utilisés par les Malgaches pour conserver l'eau des pluies dans leurs creux-troncs. Dans le Parisien, on parle d'un conifère dans la cour de prison de Fresnes qui a survécu au syndicat FO des gardiens de prison qui voulaient le voir abattu. Et puis en une de ce matin et en écho à cette belle résistance des arbres, dans Libé, on pousse un cri d'alerte pour la planète alors qu'encore une fois la Terre a explosé tous les records de température cette année. On apprend notamment dans ces quelques pages consacrées à la planète qui s'étiole qu'en France, les subventions pour les associations environnementales s'écroulent dans la plupart des régions gérées par les Républicains. Par Laurent Wauquiez notamment, en région elles sont difficiles ces nouvelles régions, Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pas envie de donner de l'argent à des bobos pour qu'ils s'amusent. En Ile-de-France, avec Valérie Pécresse qui a amputé les budgets de toutes les structures consacrées à la nature, au climat et au bio, qui, je cite, sont sans intérêt direct pour les franciliens. Morbihan, Hauts-de-France, PACA, la liste est longue et je l'arrête là. Vous pourrez la lire dans Libé. Les ONG du coup et les associations pensent à une autre manière de fonctionner et regardent avec inquiétude les résultats de l'élection de Trump aux États-Unis, car c'est ça le grand méchant loup dans l'histoire. On lit toujours dans Libé donc que sous Bush, la pression était grande pour limiter la liberté d'expression des climatologues, mais que c'est encore évidemment différent avec Trump, car ceux qui devraient encourager et développer les recherches sur le changement climatique à la tête de l'État, eh ben, n'y croient tout simplement pas. Trump veut également que la NASA cesse de s'intéresser à la Terre et ne se consacre qu'à l'espace, qui est un gros problème, car toute la communauté scientifique mondiale utilise les données de la NASA sur le globe. Du coup, la résistance s'organise partout, les climatologues veulent se faire entendre. Du 12 au 16 décembre, des milliers de scientifiques se sont réunis pour la conférence de l'Union américaine sur la géophysique, grosse conférence hein, pour les questions climatiques, l'occasion de partager leurs inquiétudes et se préparer au pire, vraiment au pire. La ministre de l'Intérieur actuelle, par exemple, est venue pour leur dire à cette occasion de ne pas démissionner, de rester là, de se battre de l'intérieur, alors que d'autres évoquent des attaques dignes du maccartisme. Alors non seulement ils s'y préparent, les climatologues, mais un mouvement de fond a l'air de naître. La climatologue Catherine Hayhoe, qui est directrice du Climate Science Center à la Tech University au Texas, résume bien le mouvement général. Il est temps que les scientifiques deviennent des citoyens. Cette envie de s'ouvrir au public, de faire comprendre les enjeux en cours, on l'a retrouvée la semaine dernière dans un tout autre endroit, dans la réunion annuelle du Chaos Computer Club. C'était le 30 décembre à Hambourg. C'est Martin Unterzergen qui le raconte dans Le Monde. C'est la plus grande messe des hackers au monde qui, depuis le début, se bat pour un Internet libérateur et ouvert. On y sent le même désir que chez les climatologues américains. Elisa Lindiger témoigne, par exemple. C'est à nous de quitter notre monde fermé, de l'apporter au monde extérieur. Nous ne pouvons pas nous cacher sous une couverture et espérer que le monde, par magie, ira mieux. Edward Snowden reprend. Si vous voulez d'un Internet plus sûr, d'une société plus libre et plus ouverte, vous allez devoir faire quelque chose. Parlez aux gens. Donc, on espère que le retour des gens ne sera pas la même que la réaction que celle du film juste avant la fin du monde de Xavier Dolan, juste la fin du monde, pardon, chroniqué par La Croix, où tout le monde hurle pour ne pas laisser au héros la place, le temps de dire qu'il va mourir. Il dit qu'il va parler, faire une annonce, les autres pressentent la catastrophe et crient plus fort que lui pour pouvoir l'ignorer.
Ah, très bien. Tiens, justement, Marie Misset. Oui. On parlait des gens qui crient, des gens qui ont peur du silence ou qui ont peur de la voix qui chuchote. On a un petit reportage sur les repas familiaux fait par notre amie Charlène qui a enquêté sur ces fameux repas. Noël, c'est un retour obligé à la famille. On est obligé de s'entendre. Alors, est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on chuchote? Est-ce qu'on se tait? Tout de suite, quelques sons autour du repas familial.
Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Tu sais, on a tous nos petits problèmes.
Et puis, j'ai un défaut très grave, la franchise.
Moi, j'aimerais ça que vous me preniez pour quelqu'un de pas trop con.
Au repas de famille, invités les grands sentiments.
Mon cher papa.
Oui.
Pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire.
C'est le caractère de ton père, ça varie, ça dépend s'il a fait caca ou s'il a pas fait caca.
La famille, on en a qu'une et on y tient.
Oh mais ta gueule, toi !
Ta gueule ! Qui veut du cake ?
Quoi, quoi ? Tu t'excuses ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
Tu veux que je demande pardon à ma mère ?
Tu vois comme il est ? Eh ben, 13 ans, il était pareil.
Je le savais, puis la famille, c'est le sujet tabou.
Mais c'est le même refrain toutes les années.
Je me demande si tu devrais pas voir un psy.
Qui veut du cake ?
Ta gueule !
Alors, comment c'était ?
C'était parfait.
Eh, tout ça méritait pas qu'on s'engueule, hein.
On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore. Dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert. Marcher dans les pierres. Marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores, dormir dehors, il faut un minimum. Petit gobelet d'aluminium, il faut un minimum. Si loin de la nature ici, le cœur durcit. On est si loin de l'air, on est si loin. Si loin de l'océan, alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore. Dehors, 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 dehors.
Alain Souchon, puis Thierry Paret, ça a toujours été comme ça.
Radio Nova.
Je veux diminuer la CSG, la contribution sociale généralisée, pour tous les salariés qui gagnent entre 1 et 1,3 SMIC. Ce n'est pas moi qui le dis bien sûr, ce sera la première mesure d'Arnaud Montebourg s'il est élu président de la République. Une annonce faite ce matin, le SMIC il est à 1149 euros net, 3,07 centimes. Mais avant d'envisager la présidentielle, évidemment, il faut passer par la case primaire. Premier tour le 22 janvier, un premier tour précédé de trois débats télévisés, les 12, 15 et 19. Manuel Valls et Vincent Payon vont présenter leur programme aujourd'hui. C'est une campagne éclair.
Vous caricaturez un tout petit peu, vous simplifiez un peu. C'est pas admettre, c'est pas si simple. C'est ça, mais c'est pas si simple. On y reviendra. Il faut faire attention. C'est plus ça que je dis.
Après plusieurs jours de mobilisation en décembre, c'est pas si simple non plus. Les chauffeurs de VTC repartent à l'assaut d'Uber. Ils prévoient de se rassembler ce matin devant le siège parisien de l'entreprise californienne. D'ailleurs, ça doit être le cas en ce moment. C'est dans le 19e arrondissement et les chauffeurs dénoncent leurs conditions de travail.
Non, mais enfin, on reviendra sur cette histoire de l'élection. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas simplifier.
Théodorin Obiang sera fixé demain. Le tribunal correctionnel de Paris dira donc mercredi s'il reporte ou non le procès du fils du président de Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. Il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable avec l'aide d'une filiale de la Société Générale.
Je crois que vous caricaturez. Moi, j'ai été dîner. Le type est bien.
Il est super sympa.
Le type est sympa. Le type
des cadeaux, des
tout.
C'est vrai. Des clés de bagnole.
Oui, enfin, il a
bien rigolé.
On a rigolé.
L'État islamique a finalement revendiqué l'attentat d'Istanbul dans une discothèque la nuit du jour de l'an. Parallèlement à cette annonce, l'enquête semble progresser puisque 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, mais on ne sait pas encore si l'assaillant fait partie de ces personnes. Un gigantesque incendie a commencé à ronger les collines de Valparaiso au Chili, ravageant une centaine d'habitations. Il y aurait une vingtaine de blessés. Une mutinerie dans une prison de Manaus dans le nord du Brésil a fait 56 morts. Des violences liées à la rivalité entre détenus appartenant à deux bandes. Il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie. Donald Trump qui s'en prend à la Chine. Il estime qu'elle tire grandement profit de ses liens économiques avec les États-Unis, mais qu'elle ne contribue pas à contrôler une Corée du Nord lancée dans la course à l'arme nucléaire. Donald Trump qui prépare son investiture, donc ce sera le 20 janvier. C'est pas simple apparemment, c'est pas simple pour trouver notamment une ou un artiste qui pourrait venir chanter. C'est ça. Du coup, moi j'ai cité, parce que j'ai appelé là-bas, mais j'ai cité Professeur Rollin pour voir si...
C'était Aretha Franklin pour Obama, mais là ça va être qui en fait ?
Bah là, il n'y a personne pour l'instant en tout cas.
Oh bah j'y vais !
Allez.
Politique, il y a pas que Trump, c'est les Américains, il faut respecter.
Il y a un petit cachet, Edouard.
Il y a quelque chose à prendre. Il y a la pièce au cul du camion.
Des milliers de passagers, on reste aux États-Unis, se sont retrouvés coincés dans les aéroports américains hier à cause d'une panne nationale du système informatique des douanes qui a duré plusieurs heures. Ouais. Un nourrisson âgé de 10 jours est décédé le 22 décembre à l'hôpital Cochin à Paris, immédiatement après l'administration d'une dose d'uvestérol D. C'est une vitamine D qui est assez essentielle pour le développement osseux des nourrissons. Le décès n'avait jusqu'ici pas été rendu public. D'où la polémique. C'était une fissure assumée du syndicalisme réformiste. François Chérec, qui avait dirigé la CFDT entre 2002 et 2012, a succombé à une leucémie. Il avait 60 ans seulement. Et puis autre décès, c'est celui de Jean Vuarnet, à l'âge de 83 ans. Oui, celui-là même qui est à l'origine des lunettes du même nom. Mais Jean Vuarnet était surtout un skieur émérite, champion olympique de descente en 1960. C'est lui qui a inventé le schuss.
Merci beaucoup Thierry Paret. Je n'ai rien entendu sur le foot, je n'ai rien entendu sur la météo. Je trouve qu'en plus vous simplifiez.
Oui, simplifie. Si on vole un petit peu et on n'est pas vraiment...
On n'est pas, parce que tout est un petit peu...
Alors que nous on a envie de plus, alors que vous nous donnez
du mieux. Du mieux, j'ai l'impression qu'il y a le côté...
On veut le foie gras, on ne veut pas la salade autour. On veut vraiment le cul.
Et bien justement, le voilà, les conseils de François Rollin. François Rollin, professeur émérite dans des collèges internationaux, conseiller de plusieurs présidents non élus dans certaines régions du monde.
C'est un président africain aussi.
Et asiatique. Et vous savez, il y a du non élu partout, cher Ahmed Kelly, vous verrez. Et là, François, quel est votre conseil
alors,
du jour?
Alors, dans ma rubrique santé-beauté de ce matin, un problème un peu délicat, Edouard, mais qui nous concerne tous, les odeurs corporelles. Oui, lequel ou laquelle d'entre nous ne s'est pas entendu dire un jour « Oh là là, tu ne sens rien, tu n'as aucune odeur particulière » ou bien pire encore « Tu sens bon, on dirait que tu sors d'un bain parfumé » et autres remarques blessantes de ce genre. Alors on peut mettre fin à ce genre de désagrément, c'est une question de volonté. Premier temps, ça va de soi, mais je le précise quand même, bannir tout ce qui est douche, bain et d'une manière générale toute forme d'ablution. Cette abstinence doit aller de pair bien entendu avec une activité physique intense comme courir dans les couloirs du métro ou déménager une cave. Je vous laisse inventer le reste. Deuxième temps, Edouard, le plus décisif, ne pas changer de vêtements ni de sous-vêtements. Je l'ai dit, c'est une question de volonté. Alors allez-y progressivement, sans vous décourager. Gardez par exemple la même chemise et les mêmes chaussettes pendant 3 jours, puis 4 jours, et puis augmentez les durées petit à petit. Essayez de tenir une semaine, puis 2 semaines, puis 3. Ne rôdez pas trop du côté de l'armoire où vous avez des habits propres. Essayez d'acquérir des réflexes au moment de changer de veste, par exemple. Posez-vous honnêtement la question, depuis combien de temps je l'ai celle-là ? 3 mois ? Eh bien, je vais essayer de tenir encore 1 mois. Laissez-vous encourager par vos amis. Décernez-vous un bon point chaque fois qu'ils ont un mouvement de recul et une mine dégoûtée à votre approche. Certaines personnalités ont réussi à ne pas changer de vêtements pendant 1 an. Vous aussi, vous pouvez y arriver. La persévérance est vraiment le maître mot en la matière. Le petit plus de Nova, oui. Edouard ? Alors, soyez bien attentifs chez vous à ne jamais ouvrir les fenêtres, d'une part, et puis rapprochez-vous de votre poissonnier, surtout à la saison chaude.
Merci François Rollin, vous faites du bien aux gens.
Oui, parce que c'est tellement blessant quand quelqu'un vous approche, vous dire « Oh, tu sens bon, c'est agréable et tout ça, ça fait tellement de mal ». Et on peut tellement facilement l'éviter avec des petits gestes simples.
Merci mon champion.
Oui, et puis surtout on est téléporté dans le temps avec votre recette. On devient Jacouille la fripouille et on devient...
Kelly,
ok, c'est dingue. Vous allez dire que c'est dingue de puer comme ça.
Merci, oui. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Bonjour Guillaume Villemot.
Bonjour Edouard Baird.
Comment ça va ?
Bah pas mal.
Mais alors les zèbres, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a beaucoup des zèbres avec nous, en studio, au téléphone, grâce à vous. On rappelle, les zèbres, ce sont donc des associations, des individus qui ont des initiatives originales. Et...
Ouais, qui règlent concrètement un problème de la société française en se disant qu'on ne va pas attendre que ça vienne tout rôti d'en haut et qu'on peut agir et que chacun on a en soi une petite part où on peut faire quelque chose et on peut faire bouger les choses. Voilà, c'est ça un faiseux.
Les faiseux, c'est ça, j'aime bien ce mot-là. Alors on en est où un peu, Guillaume ? Est-ce qu'il y a des nouvelles initiatives intéressantes ? Des gens qui,
oui, là on vient. Alors la bonne
vous.
Nouvelle, c'est qu'on est en train de franchir. Alors c'est pas un concours du Guinness, mais c'est important de voir que tous les mois, on a de nouvelles actions qui viennent nous rejoindre. Donc là, on est en train de franchir la barre des 300 actions sur le site, avec des initiatives de tout profil. On en a une, par exemple, qui est née à Grande-Sainte, dans le camp de Grande-Sainte.
C'est deux jeunes. Le camp de
Grande-Sainte, c'est une ville qui est dans le nord, qui est à côté de Calais, et qui, contrairement à Calais, a pris le maire de Grande-Sainte a décidé que le camp serait une vraie volonté de sa part de l'implanter. Donc il a construit une vraie structure. Il a fait en sorte que les enfants qui passaient la journée là soient scolarisés dans les écoles primaires de sa ville, donc apprennent le français, soient pas uniquement là à attendre de pouvoir passer de l'autre côté. Et deux jeunes filles qui sont à la fois cuisinières et une est en même temps un peu comédienne, ont monté une association qui s'appelle Le Réchaud. Et au travers de la cuisine et le fait de préparer un repas ensemble, ont permis que ces différentes communautés qui étaient à l'intérieur de ce camp puissent se connaître les unes les autres. Et puis surtout, c'est qu'elles puissent se faire connaître de la part des gens de la ville de Grande-Sainte. Et donc, il y a aujourd'hui trois personnes qui, au travers de cette expérience-là, sont en train de trouver un travail dans la restauration, un peu partout en France, mais grâce à cette action. Et ce qui est important, c'est que cette action, nous, on l'avait emmenée avec nous à Arras, où on est assez bien implanté, et le maire d'Arras a demandé à ce que le réchaud puisse aussi s'implanter sur le territoire d'Arras. Voilà, ça, c'est une des dernières...
Pourquoi ça marche à Grande-Sainte et pas à Calais, par exemple ?
Parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, un, il y a la volonté d'un élu qui est de dire je ne vais pas le subir, mais je vais le faire en sorte. Et je pense que c'est une richesse. Il y a un autre exemple d'une petite ville dans le Loiret qui a comme ça accueilli à bras ouverts un certain nombre de réfugiés et où les populations locales ont trouvé que c'était une vraie richesse. Donc il ne faut pas subir. Il faut
donc en expliquant à ses administrés.
Ouais, je pense que c'est à la fois en expliquant, en montrant la richesse que ces gens peuvent apporter, en montrant que ces gens-là sont. On a tous été à un moment donné dans nos histoires très enfouies. Des migrants et on a forcément bougé d'une région à une autre. Et je pense que simplement parce qu'il y a une volonté de faire ensemble et d'arriver à construire quelque chose, on arrive à faire tomber un certain nombre de barrières.
Et comment on arrive à expliquer en peu de mots, un peu simplement, à plein de gens qui ont la sensation de dire tiens, il y a des crédits pour des migrants et pour nous, il n'y a pas d'argent. C'est ce qui revient le plus, cette phrase. Comment est-ce qu'on peut un petit peu...
Mais je crois qu'il n'y a pas tant de crédits que ça pour les migrants aujourd'hui. Je crois qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place. Quand on regarde par exemple en région parisienne, à Paris, à la limite du Bois de Boulogne, il y a le conteneur qui a été monté. Déjà, d'abord, c'est une solution qui est une solution saine de mettre en place une structure d'accueil. Je crois que la pire des choses pour ces gens-là, c'est qu'ils ont un double regard, une double culpabilité. C'est celle de gêner parce qu'il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se loger dignement, même provisoirement. Et je pense qu'on voit qu'il y a une... ce sont des initiatives très souvent qui sont des initiatives de citoyens qui se disent on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Et il faut qu'on a dans les zèbres une autre action qui s'appelle Singa, qui a été une des premières action qui a été capable de loger des migrants quand ils arrivaient en France. Et simplement sur la base du, c'est le Airbnb finalement de la solidarité, puisqu'ils ont demandé, ils ont mis en place tout un réseau qui permettait aux gens de pouvoir lever le doigt en disant, moi j'ai une chambre, moi j'ai un appart, moi je peux me loger une personne, trois personnes, etc. Je crois que c'est simplement de montrer aux gens, et c'est toute l'initiative et tout l'enjeu des zèbres, c'est de montrer qu'on a tous en soi la possibilité de renverser la table et de faire bouger les choses. Et on peut tous le faire à notre niveau.
On a eu plein de gens formidables ici, il y a cette dame qui fabriquait les cercueils à moins de 150 euros, alors qu'avant il fallait dépenser des sommes folles. Il y avait le compte Nickel, on se rappelle le compte Nickel, qui est ce compte bancaire pour des gens qui n'ont pas le droit d'ouvrir, qui ne peuvent plus ouvrir un compte en banque. Et avec 20 euros, on peut ouvrir un compte en banque. Il y a deux, trois nouvelles initiatives comme ça.
Alors on va avoir. Il y a eu aussi une action que j'aime beaucoup qui s'appelle les vélos de l'espoir. C'est quelqu'un qui a un jour, souvent ce sont des gens qui prennent un coup sur la tête et qui démarrent sur une action en disant on peut pas rester passif face à ça. Là en l'occurrence c'est quelqu'un qui est encore dans le Nord et on lui annonce que un de ses enfants est atteint de mucoviscidose et il se dit moi je suis juste tourneur fraiseur, c'est la seule chose que je sais faire, donc c'est mon métier, donc je peux pas aider plus que ça à lutter contre cette maladie. Donc ce qu'il a fait, c'est que il a mis en place tout un système de collecte de vélos et de réparation de vélos, et il vend ses vélos. Et ça ramène chaque année 100 000 euros à l'association contre la mucoviscidose. Il y a une autre femme qui est exceptionnelle, dont on a parlé, qui s'appelle Monique Daniel, qui est proviseur d'un lycée à côté de à Chambéry, qui est un lycée professionnel, et qui s'est dit, voilà, moi, ma mission, c'est de faire en sorte que les gamins qui arrivent ici, qui sont souvent fracassés parce qu'on leur dit, tu viens dans un lycée pro, et avec tout ce que ça représente aujourd'hui comme image pas forcément très positive, bah, elle a décidé de leur donner, de leur redonner confiance, de leur montrer qu'on croit à leur capacité à faire, et ils ont monté, par exemple, des actions où, aujourd'hui, ils sont capables de... elle a mis sur le toit de son lycée, contre toutes les interdictions possibles et imaginables, des ruches, et les gamins font eux-mêmes leur propre miel, mais surtout ils le commercialisent, et voilà, et c'est le lycée qui s'appelle de Margerias qui est à Chambéry, et c'est une super initiative qui peut se multiplier dans tous les lycées professionnels de France.
Merci Guillaume Villemot. Où est-ce qu'on retrouve tout ça sur votre site alors?
Ouais, bleublanzeb.fr.
Qu'est-ce que vous allez faire là ce matin?
Eh bien, reprendre peut-être un café si vous m'en offrez un, puis après éventuellement aller travailler.
Oui, voilà. Parce que vous avez un travail.
Et oui.
Ça c'est à côté.
Oui, c'est ça, c'est en plus, c'est pour
D'accord.
faire plaisir.
Très bien, je ne vous le demanderai pas parce que beaucoup de pudeur ici. Jacques, souvent il y a des gens qui travaillent dans la rue en ce moment, dans la région parisienne.
Bah oui, carrément. Moi je suis avec Guillaume qui est gardien de passage piéton. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors vous savez, vous... Oui, pardon.
Ah, bon,
non, allez-y. Ah non, Jacques, je vous en prie. On m'a bien entendu.
Bah, écoutez, je n'en ferai rien. Mais
on va passer le premier.
Enfin, c'est
alors,
quoi,
oh là l'ami, tout doux.
Et vous me disiez que vous étiez un peu un épouvantail. On essayait de définir ce qu'est le métier, parce qu'à la main, donc, il a un dossard jaune, fluo, avec, et puis à la main, une espèce de raquette de tennis, de ping-pong, pardon, où il y a marqué « Stop école » dessus.
Oui, bah, c'est... je fais de la protection... de la protection piétonnaire pour les enfants, pour qui rentrent à l'école, et tout le monde est content, les enfants, les parents.
Et alors là, le service est terminé, donc est-ce qu'on peut arrêter des voitures juste pour, comme ça?
Oui, si vous voulez.
Alors on y va.
Alors arrêtez les voitures, parce que je me demande toujours, parce que je vous croise le matin, je croise plein de mecs qui bloquent à l'heure de l'entrée de l'école, qu'est-ce qu'ils font entre l'entrée et la sortie, entre 8h30 et midi, où êtes-vous? Pas au bistrot.
Là, on est en train d'arrêter un vélo. Monsieur, arrêtez-vous. Monsieur, Monsieur, vous respectez pas les stops. Ah voilà, il y a une voiture qui arrive. On va se faire tuer. Hein.
Guillaume, vous faites quoi entre 8h30 et midi?
8h, disons que je commence mon travail à 8h.
Oui.
C'est des vacations de 40 minutes,
oui.
4 fois par jour.
Ah oui, la situation est complètement dingue.
On est quand même sur du 160 minutes jour.
On est en train d'arrêter une voiture, là. Et la voiture ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a un piéton qui passe.
Vous êtes un grand enfant. Allez, traverser toute votre vie, Jack, souvent.
Mais tout à fait. Vous savez, Edouard, qu'il n'y a pas un seul stop à Paris. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas un panneau stop.
Oh, ne m'engueulez pas, je n'y suis pour rien, mon vieux. Hein.
Non, mais... Ah, il y a un monsieur avec son petit chien, on le fait passer. Oui, allons-y. Oh putain. Voilà, hop. Et voilà, venez. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient de vous faire passer avec votre... C'est quoi comme chien?
T'as quel?
On vient de vous faire passer exprès quand même. Pour vous, on a arrêté toutes les voitures.
Oui, c'est bien.
Bon, ça, c'est bien.
Ben, je trouve que c'est bien que les piétons puissent passer.
Non, mais c'est pas les piétons, c'est vous, monsieur.
Bon, écoutez, j'ai pas le temps.
Ah bon, voilà. Voilà, vous étiez un prince.
Vous étiez un prince, vous vous réveillez, vous êtes une citrouille. Vrai. Est-ce qu'un piéton qui conduit une voiture est encore un piéton? Est-ce qu'un homme qui promène un chien n'est pas lui-même promené par son chien? Est-ce que 4 vacations de 40 minutes, ça fait 160 minutes ouvertes? Qu'est-ce qu'on fait des 22h15 qui nous restent? À quoi ça tient la vie? Un homme en jaune vous arrête, vous ne vous arrêtez pas, vous avez raison, continuez. Continue ton chemin, gamin. Vas-y à l'école, vas-y. Allez, puis à bientôt. Allez, à bientôt. Oh
7h-9h plus près de toi.
Ça va ?
Plus près de toi.
7h-9h.
Édouard Baird, 7h-9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Non, en effet. François Rollin, sur les nuits de rêve à la Redoute, vous avez senti assez touché ?
Ah oui, on est dans l'univers du rêve, parce que j'ai entendu que la Redoute, mais également Intermarché, et d'autres encore, font des efforts de prix pour nous. Quoi. Donc c'est ça qui est à retenir en ce moment.
Il y a des ventes à perte, très certainement.
Il mouille la chemise, hein, comme on dit, il se saigne aux quatre veines pour baisser encore les prix. Vous avez vu, c'est vrai sur les matelas, c'est vrai sur les petits suisses, c'est vrai sur la lessive.
Atmen, vous qui êtes titulaire d'un prix du Conservatoire National d'Art Dramatique, vous avez remarqué qu'à la Redoute, rêve, il y a beaucoup de haies. C'est rêve. Hein.
Moi, j'étais très surpris sur la voix du type qui prenait le cidre. C'est des voix qu'on n'a pas entendues depuis 1950. Quoi. Le cidre.
Ça ne rajeunit pas l'image,
du cidre. Donc, il en avait besoin.
Rêvais de faire ça depuis le début. Donner un numéro de téléphone d'antenne, appelez-nous. Si vous voulez jouer avec François Rollin, Vous pouvez appeler, je pensais pas qu'un jour je dirais cette phrase-là, au 01 43 07 58 85. Et on joue avec plutôt une auditrice, peut-être, François.
Comme vous voudrez, moi, je...
Qu'est-ce qu'il y a gagné ?
Il n'y a rien. Écoute, ça ne va pas, mais elle a gagné. Si. Tout ça, vous êtes vraiment victime de la société de consommation. Bah. 01 43 07 58 85, appelez-nous, vous avez joué François Rollin. Jack Souvent est encore dans la rue ? Oui, Jack.
Donc il y a une voiture qui s'est arrêtée, et puis il y a un monsieur qui était là, qui me dit, bah, moi, j'habite là, et je vous invite à prendre un café.
Ah, bah alors, allez-y, oui.
Ça va, Edouard ?
Oui, ça va, bien.
C'est Edouard au bout du fil.
Salut.
Parce que ce monsieur écoutait la radio aussi, je vais le dire.
Ah, il était
la radio et en fait j'arrive devant chez moi, je me gare et je vois le micro de Radio Nova et donc je suis allé vers le monsieur et je lui ai dit bah tiens, c'est marrant parce que j'étais dans la voiture et j'entendais que ça parlait du 13e.
Ah,
voilà,
donc
moi je raccompagnais ma copine dans le 16e, voilà. Donc là je suis dans le 13e.
Alors donc votre copine a dormi à la maison.
Voilà.
Et alors en cachette et elle doit rentrer vite pendant où son mari ou son père et l'attend.
Non, il n'y a pas de tromperie.
Non,
il n'y a pas de tromperie.
Donc
elle est partie en cours.
Voilà. Donc on est sur du très jeune. Et donc là, vous allez prendre un...
Là, oui, on vient de rentrer. Le code, c'est 144B69.
Alors, je le note. Donc, vous allez prendre un
café.
Ah, vous allez chez lui. Ah oui.
Oui, alors, oui, on y va. Mais je ne sais pas si c'est une proposition indécente ou pas. Hein.
Oh, mon vieux, vas-y, fonce. Vas-y, va vers ton risque. Cours.
Ouais, alors, on se baisse, là. Il y a une petite... Vous m'entendez toujours? Est-ce qu'on rentre dans les catacombes? Non. Voilà. Ah, une petite impasse. Un petit scooter. Ah, mais c'est maison sur cours.
Un petit scooter, c'est une petite Anna Pigalle. On est bien installé là.
On est bien installé, on s'installe petit à petit.
Et là, vous allez
la
pas.
Porte, la porte, ouais. Voilà, la porte.
Ça sent le coup fourré là.
Bonjour.
Et la carte.
Ah, alors,
et
le gun. Je suis dans la cuisine.
Ah, oui.
Il y a des mecs qui jouent au poker.
Ah bah, non, c'est vrai ou pas?
C'est vrai. Non.
C'est bizarre. Bonjour messieurs. Des mecs qui jouent au poker. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est normal ? Voilà. Ils ont tous des casquettes New York.
Ah, j'ai pris ma journée là. Je vais aller travailler tranquillement. Moi, je suis à mon compte. C'est la joie de la liberté.
Vous êtes plombier, vous ?
Voilà, je suis plombier. Je suis plombier artiste.
Plombier artiste ?
Ouais, je fais de l'art. Tu veux voir les œuvres ?
Bah ouais.
Oh la vache.
C'est-à-dire, vous faites de la tuyauterie artisanale ? C'est où ? C'est. Attends. Putain, je fais noir là.
Ouais, allumez.
Bonjour. Oh putain, qu'est-ce que. Ah ouais ! Ah ouais ! Donc je décris, c'est-à-dire que c'est un tableau avec de... Bah, décrivez votre œuvre en fait.
Oh, c'est tout un univers, c'est un tableau avec de la plomberie, du néon et des vieilles bouteilles, que ce soit des bouteilles de champagne ou des vieilles bouteilles de parfum ou des vieilles bombes des années 80, des vieilles bombes de peinture. Voilà.
Et c'est vous qui faites les néons aussi, il y a marqué Funky Love.
Je travaille avec un néoniste qui est à Porte de Pantin et qui fait du néon toute l'année.
Je regarderai, c'est le mot que je garderai de cette conversation, le néoniste de la Porte de Pantin. Salut, je vous laisse un petit peu, envoyez-le à la table de poker et vas-y mon vieux. Hein, vas-y mon Jack.
Allez,
Souvent, prends le pognon.
Journée, Edouard,
salut, hein, bonne journée. Ouais. Nous étions... Oui.
Je prends une photo de l'œuvre. Hein.
S'il te plaît, on
vous la
mettra
la ramène.
En ligne.
Allez, avec plaisir.
Salut. On est avec François Rollin pour Le Grand Jeu. Mettez un fond musical là-dessus, vraiment envoyé de l'emphase. Le Grand Jeu de François Rollin. Les deux dernières minutes, François Rollin est face à un auditeur qui vient d'appeler. Bonjour monsieur.
Bonjour Edouard, bonjour François.
Salut, quel est votre prénom ?
Je m'appelle Giorgio.
Giorgio, tu vas jouer avec François Rollin. Quel est le jeu, François ?
Alors c'est le jeu... Il m'entend, Giorgio ?
Oui.
C'est le jeu du vrai ou faux, à qui perd gagne. Hein, par exemple, si je dis « Le Lys dans la vallée est un roman de Balzac », il faut répondre « faux », puisque c'est vrai. Vous avez compris ? Allez, c'est parti. Il y a 8 questions. « Le Boléro est une œuvre de Maurice Ravel ».
Alors ça c'est faux.
Très bien.
Ah bravo. Oui, c'est faux parce que c'est vrai.
Voilà. Jacques Chirac est mort.
Ah, il y a un doute. Alors là, c'est vrai.
Très bien. Le film d'Edouard Baer, Ouvert la nuit, sort le 11 janvier.
Merci François.
Ah, c'est faux.
Très bien, oui, parce que c'est vrai. Attention, ça se complique. Niamey n'est pas la capitale du Niger. Vous me répondez ?
Ah, c'est vrai ?
Très bien,
c'est
il est
vrai
fort.
Parce que c'est faux que ça soit vrai. Ça l'est vraiment.
Oui, voilà. Ben voilà. La bouillabaisse est une spécialité bordelaise, vous me répondez ?
Alors, comme c'est faux, donc c'est vrai.
Très bien. Bon, bah, une dernière question, elle est tout petit peu plus compliquée. Giorgio, dans le jeu auquel nous sommes en train de jouer, il faut répondre faux à la question de savoir si la baleine est un mammifère. Vrai ou faux ?
Une chance sur deux.
Oui, ça c'est ça. Alors, ça c'est faux puisqu'il faudrait.
Eh non, il faudrait aller chez le radio. Vrai. Voilà. Il a... Non, oui. C'est faux parce qu'en fait, il faut répondre vrai. Donc, puisque c'est faux, il faut répondre
qu'est-ce
vrai.
Qu'est-ce qu'il a gagné?
Ah, écoutez, il a gagné. C'est vrai. Giorgio, vous voulez gagner quelque. Vous êtes où là, Giorgio?
Ah là, je suis dans ma voiture.
Il a bien joué. Il a très bien joué quand même. Vous allez passer à Nova. On va vous trouver un truc. Vous passez dans la semaine à Nova?
D'accord.
D'accord. Bah, le jeudi matin, passé entre 7 et 9, il y a un live et on vous offrira quelque chose. On trouvera la chemise de Hatman Kelly ou quelque chose.
Ah non.
Salut Giorgio, merci, bonne journée à vous.
Moi, je n'ai rien. Bonne
journée. Salut, bonne journée. Giorgio non seulement a gagné, mais c'est le seul qui a compris quelque chose.
Oui, oui,
merci François, merci Eugénie, merci Manu, Manu Hatman. Au revoir à tous. Gloire à Thierry Paré et les 30 Glorieuses.
Voilà. Salut, à demain.
Et on rend à l'heure.